C'est la réunion de prière, donc je vais m'arrêter sur un verset qui parle de la prière. Et en fait, on regardera ensemble, à chaque fois que j'aurai l'occasion de venir un mardi pour la prière, on regardera ensemble un effet de la prière. En fait, je voudrais vous parler de l'effet de la prière. La prière, elle produit quelque chose en nous. On est d'accord ? Normalement, la prière, elle doit produire quelque chose en nous. Si je prie et que la prière ne produit pas quelque chose en moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si je me tiens devant le Seigneur, si je prie, ça va produire quelque chose. Alors, il y a ce verset, c'est un verset clé, et ensuite, on tiendra compte du contexte. Mais le verset clé qu'on va lire ensemble, il est très court, il y a trois mots. Il se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 17. C'est un verset qu'on devrait tous connaître. C'est l'apôtre Paul qui dit, c'est quasiment en conclusion là de la première lettre aux Thessaloniciens, et il dit, vous l'avez trouvé ? Venez avec vos Bibles, hein ? Je sais pas si ça se... Non, il n'y a pas de projection ? Bon, ben c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien quand on vient avec la parole de Dieu. Hein? Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset, ou même le téléphone, hein. Moi j'ai la Bible sur le téléphone, hein. Des fois quand je prêche pas, ben je prends le téléphone, il y a la parole de Dieu, c'est la même, elle est inspirée pareil, hein. C'est la même version, il n'y a pas de souci. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, l'apôtre Paul dit, vous avez trouvé, priez sans cesse, amen, priez sans cesse. Je disais tout à l'heure, on va voir les effets et ce que produit la prière. Quand on regarde la parole de Dieu, bien, on se rend compte que Dieu nous parle souvent de produire, hein, d'être des producteurs, du producteur au consommateur. Hein. Par exemple, Jean-Baptiste, il dira « produisez du fruit digne de la repentance » dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Il y a des textes comme ça qui nous parlent de produire. Jésus dit, quand il parle de Jean, au chapitre 15, verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui produit, qui porte du fruit, il le monte. Donc, la parole de Dieu nous enseigne à produire. Et ce qui va produire quelque chose en nous, c'est la prière. La prière, vous l'avez certainement entendu déjà des dizaines de fois, là, on dit que la prière, c'est le poumon de l'Église. Et c'est là qu'on voit la véritable Église, quand l'Église se tient dans la prière, quand elle est dans le combat. La prière aussi, c'est un combat. Et quand on prie, bien, il doit se passer quelque chose. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Alors, je vous pose une question. J'aime bien que ça soit comme ça, interactif. Est-ce que c'est possible de prier sans cesse? Ça vous pose une colle, là. Hein? Alors, est-ce que c'est possible? Mais oui! Alors, pourquoi c'est possible? Parce que c'est écrit. Sinon, Dieu ne l'aurait pas mis. Hein? C'est parce que c'est écrit que Dieu nous dit, mais tu peux prier sans cesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça y est, j'arrête tout, je vais me cloîtrer, je vais passer ma... Non, c'est pas ça que ça veut dire. Hein? Prier sans cesse. On voit rien qu'avec les exemples du Seigneur, par exemple dans l'évangile de prier sans cesse, c'est un état d'esprit et un état d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que tous, autant que nous sommes dans ce lieu, on a d'abord un culte personnel, que ce soit le matin ou le soir, bon, quand on peut le matin c'est mieux, on a ce temps de prière et ensuite on va vaquer à toutes nos occupations. Je vois un peu les visages. Je sais qu'il y a encore il n'y a pas que des retraités au milieu de l'assemblée. Donc, il y en a qui se lèvent le matin, qui vont travailler, etc. Mais, on a tous des occupations. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire que prier sans cesse? Eh bien, c'est garder cet état d'esprit dans notre cœur. D'abord, je passe un temps devant le Seigneur. Ça, c'est indispensable. Je passe un temps devant le Seigneur. Et ensuite, je vais vaquer à toutes mes occupations. Quelle que soit même, frères et sœurs, l'occupation que je peux avoir, le métier que je peux avoir, je peux garder la présence de Dieu dans mon cœur. Je dois garder la présence de Dieu dans mon cœur. Amen. Par exemple, il m'était revenu à l'esprit ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 11, au verset 1er, où il est dit que lorsque Jésus, ouais, on va le lire si vous voulez, je vais vous le lire, lorsque Jésus eut achevé de prier, ses disciples sont venus vers lui, Luc 11, 1, et ils lui ont dit, Jésus priait un jour en un certain lieu, et donc il a prié, Et lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, on voit que Jésus passe un temps dans la prière, on va voir un autre texte dans l'évangile de Marc, et ensuite, lorsqu'il eut achevé, il a arrêté de prier, ses disciples sont venus. Donc, je passe un temps, et ensuite, je vais vaquer à mes occupations. Et le Seigneur aussi, il avait du travail. Quand on lit dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, et au verset 32, je vous fais grâce peut-être de tout le texte, mais il est dit que le soir, après le coucher du soleil, Marc 1, 32, on lui amena tous les malades et tous les démoniaques. Et toute la ville, j'ai souligné ça dans ma Bible, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Toute la ville ou le village, mais vous imaginez un peu? C'est comme si toute la ville était rassemblée là. Amen. Dites amen, oui. Que toute la ville soit rassemblée là devant l'église. On veut rentrer. Amen. Hein? Et là, toute la ville était rassemblée. Et Jésus a prié pour les malades, donc il a dû passer du temps à prier, à guérir les malades. Et regardez ce qu'il est dit, verset 35, je morcelle un petit peu le texte. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Donc, il a passé une partie peut-être même de la soirée, voire de la nuit, à prier pour tous ces malades, puisqu'il y avait toute la ville qui était là. Et le lendemain, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit dans un lieu désert pour prier. Simon Pierre et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Et regardez ce que le Seigneur va répondre. Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Donc il y a un temps. C'est important ça, parce que des fois on se dit, des fois on culpabilise, ouais j'ai pas assez prié, il y a un temps, on passe un temps devant le Seigneur, et ensuite on part faire toutes nos occupations, mais on garde cette présence du Seigneur hein, dans notre cœur. Et quelle que soit la fonction qu'on peut avoir, on peut être toujours hein, dans notre être intérieur en communion avec le Seigneur. Donc c'est possible, prier sans cesse. C'est possible. Et maintenant, je voudrais regarder juste un effet de la prière avec vous. On en verra la prochaine fois, mais à partir du verset 11, on revient dans 1 Thessaloniciens. Je me suis dit, tiens, et quand on étudie la parole de Dieu, on se rend compte que là, c'est la base. C'est la base. On va lire à partir du verset 11, si vous voulez. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Là, on a lu le verset 17. Mais c'est juste pour vous donner la trame pour les prochaines fois aussi. Verset 11. C'est pourquoi vous avez trouvé? Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la... Alors, je reviens sur ce verset, pardon. Mais prier sans cesse, c'est exhorter. Celui qui prie, l'effet de la prière va nous amener à exhorter. Amen. On s'arrêtera sur ce premier point. Ensuite, l'effet de la prière va nous amener à édifier. Édifiez-vous les uns les autres. L'effet de la prière va nous amener à avoir de la considération. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. On retrouve l'exhortation. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Ça, c'est ce que produit la prière. Elle fait de nous des hommes et des femmes affectueux et affectueuses. Eh oui, si je prie, il y a quelque chose qui se passe. Allez, on continue. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans des hommes. Et Dieu nous avertit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on le soulignera, mais quand on prie, des fois Dieu nous montre des choses, et là il dit, mais avertissez ceux qui vivent dans des hommes. Et quand je suis en prière, bien Dieu peut me montrer quelque chose, et je peux aller hein, avec la personne, essayer d'avoir une réconciliation, et d'avoir une bénédiction entre la personne et entre les deux personnes. Et il dit, mais avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Je me disais, mais comment consoler si je ne suis pas animé de la prière et de l'esprit de consolation? C'est pas possible. Non? Il faut être animé de l'esprit de consolation, c'est-à-dire du Saint-Esprit, pour aller consoler les autres. Sinon, ce sera que de nous. Allez, on continue. Ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Et user de patience envers tous. Il y a encore deux éléments. Comment je vais faire pour supporter si je ne prie pas? Hein? C'est pas vrai. Là aussi, je vais pouvoir supporter parce que je vais me tenir devant le Seigneur. Dieu va me donner la force. Ensuite, il dira, et user de patience envers tous. À chaque fois, donc, c'est tout ça, c'est l'effet de la prière, hein. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez le bien, toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Quand je prie, je veux faire que le bien. Celui qui prie vraiment, il va faire que du bien. Et oui, c'est comme ça que ça se passe avec Dieu, hein. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Du verset 18 au verset 22, il est question là de la vie de l'esprit. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Et ensuite, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce qui peut éteindre l'esprit? Allez, juste, c'est pas ça mon sujet, hein. Mais qu'est-ce qui peut éteindre l'esprit? Le manque de prière. C'est pas compliqué. Le manque de prière éteint l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Qu'est-ce qui va amener du mépris dans les dons spirituels? Le manque de prière. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Voilà, je vous ai donné le contenu, hein. Ça va? On verra au fur et à mesure, hein. Voilà, ça va faire comme des feuilletons, hein. Hein? Vous regardez les feuilletons? Allez. Verset 11. On va s'arrêter juste sur la première phrase. Je me disais, mais c'est la base. S'il n'y a pas ça, tout le reste ne suit pas. C'est pas possible. Mais l'apôtre Paul dit ceci, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Amen. Et je voudrais vous parler de l'exhortation. Si je prie, je vais exhorter. Qu'est-ce que ça veut dire exhorter? Exactement. Vous prenez le dictionnaire, hein, avec Wikipédia, maintenant vous appuyez, même pas vous appuyez, même pas vous tapez, vous l'interrogez, donne-moi la signification d'exhorter. Et en plus, il parle et tout, Wikipédia, c'est bien, hein. Il n'y a plus besoin de taper, hein. Et bien sûr, exhorter, ça veut dire encourager, fortifier. Amen. Tirer vers le haut. Et si je suis un homme de prière, si je suis une femme de prière, l'effet de la prière sur ma vie va m'amener à encourager et à exhorter toute ma vie. Amen. S'il n'y a pas cet encouragement, c'est qu'il faut se remettre en question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si je suis animé de la prière, je vais avoir comme effet l'exhortation, l'encouragement. Amen. Notre vocation, frères et sœurs, la vocation de l'Église au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, il y a de quoi se décourager, non? Parce que le contraire d'exhorter, d'encourager, c'est quoi? C'est décourager. À la limite, on aurait notre nature. Hein, on a la même nature, je crois, non? Hein? Des fois, elle a plus tendance à décourager qu'encourager, qu'à exhorter. Mais si je suis, frères et sœurs, et je vous le dis vraiment de tout mon cœur, si je suis cet homme ou cette femme de prière, Dieu va me pousser à aller vers les autres et à leur donner toujours une parole d'encouragement pour la relever, pour relever le frère, pour relever la sœur, pour relever la personne à qui je témoigne. C'est tellement important, ça. S'il n'y a pas ça, ben, on peut faire ce qu'on veut, mais il va manquer cette dimension de l'exhortation. Et l'auteur, Paul dit ceci, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Je disais que le contraire d'encourager, c'est décourager. Et je me suis souvenu de ce passage dans le livre des Nombres. Vous vous rappelez du livre des Nombres, quand Moïse va envoyer les 12 espions dans le pays de la promesse, Nombre 13 et Nombre 14. Donc il envoie un homme par tribu, ils partent à 12 et reviennent et donnent leur témoignage. Et sur les 12 témoignages, il y a eu combien de négatifs et combien de positifs? Il y a eu 10 négatifs et 2 positifs. Et je relisais le texte, hein, le temps me manque, mais vous le lirez dans Nombre 13, où Dieu dit, mais je vous donne ce pays. Avant de partir, il leur dit aux 12, Moïse leur dit de la part du Seigneur que Dieu leur donne le pays. C'est clair, c'est écrit, mais quand même, ils ont entendu que le pays était pour eux. Je vous donne ce pays. Et quand ils reviennent, quel est le rapport des 10? C'est un pays où il y a des géants, mais c'est vrai, il y avait des géants, mais c'est un pays où coule le lait, le miel. Et je relisais cette fameuse grappe de raisin. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu les vendanges, hein. Mais la grappe de raisin, c'était une je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la grappe, il a porté à deux, hein. Nous, on va dans les vignes avec le sécateur électrique, tac, 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 et c'est des... Mais là, C'était la bénédiction. Et ils ont commencé à dire, mais non, on est comme des sauterelles à leurs yeux, c'est des fils d'Anak. Ils ont découragé à tel point que ça leur a coûté combien d'années, ça, ce découragement. 40 ans à tourner en rond. Ça ne veut pas dire que quand je... Mais quand même, des fois, on tourne en rond, on se pose la question. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais des fois, on se pose la question, mais on tourne en rond. On tourne en rond, pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y a pas eu ce qu'il fallait et qu'au lieu d'encourager, ils ont tourné en rond. Dieu dira, vous voyez le pays, vous allez... Et ils ont tourné pendant 40 ans. Alors peut-être cessons de tourner et allons exhorter les autres et allons les encourager. Amen. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est important. Mais on voit que dans la parole de Dieu, souvent, ils ont commencé à murmurer, etc. Enfin, c'était la catastrophe. L'apôtre Paul pouvait dire ceci, prêche la parole, insiste, c'est dans 2 Timothée 4:2, il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure et exhorte. Et je relisais la suite, vous connaissez ces textes par cœur, car il viendra un temps où les hommes, on est en plein dedans, frères et sœurs, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, on est en plein dedans, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, et détourneront leurs oreilles de la vérité, mais toi sois sobre, fais l'œuvre d'un évangéliste, etc. etc. Mais les gens, ah ouais, si vous voulez remplir la salle, vous faites une soirée, crêpe ou... Je n'ai pas dansante, mais ouais, une soirée un petit peu décontracte, vous allez remplir. Hein. Les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais si vous leur parlez du Seigneur, ça c'est autre chose. Je pense à ce texte de Jésus quand il dit que le chemin est large et spacieux, et il mène à la perdition, et le chemin est étroit et resserré, et il mène à la vie. Et éternel. Et je crois que nous, eh bien, on doit garder ce chemin, parce que le chemin large et spacieux, le Seigneur dit qu'il y en a beaucoup qui le prennent. Et nous, on veut garder et rester sur ce chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Reprend. Alors oui, il y a reprend, censure, mais il y a aussi encourage et exhorte. Et pour rester dans le thème de la prière, j'ai relevé ces versets qui nous parlent de l'exhortation avec la prière. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, je le lis pour vous. Paul met un point d'honneur à la prière et il dit ceci, j'exhorte avant toute chose à faire des prières. Vous savez, après il parle des hommes élevés en dignité, etc. On peut le lire si vous voulez, mais c'est dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. D'ailleurs, ça commence par j'exhorte, donc avant toute chose. Des fois nous on fait et on prie après. Et le Seigneur dit, mais avant tout. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Donc, bien, il faut prier pour... Qu'est-ce qu'il dit, le pasteur? Il faut prier pour notre mère. Je sais pas, je connais pas le maire d'Aubagne. Nous, on a une mairesse. Et il faut prier pour les autorités, non? Déjà qu'ils nous laissent la liberté de nous retrouver, parce que quand on regarde certains pays, c'est catastrophique. Il y a eu plusieurs prières qui priaient pour les pays persécutés. Mais quand on regarde, si on pouvait comptabiliser le nombre de... Malheureusement, frères et sœurs, malheureusement, il ne faut pas là aussi se voiler la face, le nombre de décès qu'il y a au milieu du peuple de Dieu dans ces pays totalitaires, où dès que vous prononcez le nom du Seigneur, vous êtes enchaîné, vous êtes emprisonné, etc. Alors que Dieu nous donne toujours cette liberté. Hein? Amen. Ça, c'est important. Hein? Et il dit, j'exhorte avant toute chose de prier pour les autorités. La Bible nous dit de prier, Paul le dit dans l'Épître aux Romains, de prier pour les autorités, pour ceux qui nous gouvernent. Amen. Et même si, des fois, il y a des choses qui... Tout à l'heure, quand je suis arrivé un peu de bonheur, il y avait deux ou trois personnes, deux frères, et on parlait un petit peu de la vie, quoi. Hein. On parle de l'inflation. Hein. Et c'est vrai que tout a augmenté. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Mais on doit prier quand même pour ces hommes, pour que Dieu leur donne encore un peu de sagesse, pour qu'on puisse vivre tranquille. Amen. Remarquez qu'entre nous, ça sortira pas d'ici. Hein? Mais quand on regarde certains pays, quand on regarde le nôtre, on est encore quand même béni. Non? Pensez pas? Hein? On est encore béni. Quand on pense au niveau médical et tout, bon, enfin. Allez, je ferme la parenthèse. Que Dieu soit béni. Mais il insiste. Paul dit ceci encore, toujours donc, concernant la prière, dans Romains chapitre 15, verset 30, il dit ceci, « Je vous exhorte, frères, écoutez bien, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, donc le combat c'est la prière, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Et c'est pas être égoïste, hein, quand on retrouve souvent dans les épîtres, quand Paul dit « Priez pour moi », etc., etc. Mais là, on voit bien qu'il est question d'exhorter, il est question de combattre et il est question de la prière. C'est Jacques qui dit dans le chapitre 5, verset 16, « Priez les uns pour les autres ». Amen. Des fois, vous savez, on n'arrive plus à prier. Quand on a une bonne grippe, quand on a les jambes en coton, ben, vous arrivez à prier, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à lire la parole de Dieu. Hein, c'est terrible, c'est terrible. On est fatigué, et là, l'Église, elle prend le relais. Amen. Elle prend le relais, et elle prie pour le frère, elle prie pour la sœur, elle prie pour les malades. Que Dieu soit béni. Donc c'est lié, hein, prier sans cesse. Celui qui prie, l'effet de la prière sur notre vie, c'est d'exhorter, d'encourager, de fortifier, de tirer vers le haut. Que Dieu soit béni. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, au chapitre 3, verset 13, ça c'est pour... Moi, voilà, Dieu m'a donné ce verset, hein, Hébreux 3, 13, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Prenez votre Bible. « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous, et il y a un but final, aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le fait de prier et d'exhorter va nous éloigner de la séduction du péché. Je ne vais pas vous parler du retour de Jésus. Mais quand on lit dans Matthieu chapitre 24, le premier signe du retour de Jésus, c'est la séduction. Relisez Matthieu 24. Ils séduiront, s'il était possible, même les élus, etc., etc. Et là, le Seigneur nous garde. Exhorte-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour que tu vois ton frère, chaque jour que tu vois ta sœur, tu t'encourages avec lui et avec elle. Amen. Chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Chaque jour, pasteur, ça fait beaucoup, hein, 360 jours, oui, oui, c'est comme ça. Amen. On s'encourage et on se fortifie. Parce que c'est parce que je passe du temps devant le Seigneur, Dieu m'encourage et je vais encourager aussi les autres. Que Dieu soit béni. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, c'est toujours dans cette même pensée, et là ça rejoint aussi le retour de Jésus. 1 Timothée 4, 13, il dit ceci, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. » J'y tiens, on peut faire un parallèle. Paul dit, mais jusqu'à ce que je vienne, et mes frères et mes sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, nous devons nous appliquer. Élève appliqué. Je ne sais pas quel était votre carnet de notes quand vous étiez au collège ou au lycée. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'était la catastrophe. C'était la cata, mes amis. Élève appliqué, et pourtant, devant le Seigneur, eh bien, c'est ce que Dieu nous demande. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Hein? Quand on dit d'un ouvrier qui est appliqué, c'est un gars qui est ponctuel, c'est un gars qui fait, etc., etc. Ou d'une ouvrière. Hein? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, on doit s'appliquer à lui être agréable et à encourager son prochain. Paul dit ceci, et ça aussi peut-être que quelqu'un, j'avais cette pensée aussi là, bon, Paul dit ceci, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Des fois la flamme elle baisse, hein, hein? Alors on est fort, on se déculpabilise en disant, ouais, mais le Seigneur a dit qu'il n'éteindrait pas les millions qui fument, etc. Ouais, mais enfin, j'ai que de la fumée à chaque fois. Hein? On a besoin, il n'éteint, hein? Et Paul dit, mais je t'exhorte à ranimer la flamme. Amen. Faute de bois, le feu s'éteint, dit Salomon, hein? On a besoin du feu. Amen. Et le pentecôtiste, c'est quoi? C'est le feu. Hein? C'est pas allumer le feu, mais c'est le feu. Amen. Et on a besoin de l'esprit de la Pentecôte, on a besoin du Saint-Esprit qui vienne embraser nos cœurs. C'est l'auteur, le verset m'échappe, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans les premiers chapitres qu'il a fait de ses serviteurs et de ses servantes de flammes de feu, des hommes et des femmes embrasés. Et Dieu, au jour d'aujourd'hui, a plus que jamais besoin d'hommes et de femmes embrasés. Amen. Amen. Je t'exhorte à ranimer. Le Seigneur vous exhorte. Il m'exhorte à ranimer la flamme. Parce que des fois, ça baisse. Bien, Seigneur. Les dons spirituels. Quand même. Regardez ce qu'il est dit. Alors, on va le lire si vous voulez. Allez, prenez vos Bibles. 1 Corinthiens, chapitre 14. Le don par excellence, c'est le don de prophétie, hein. D'ailleurs, il le dit à 1 Corinthiens 14, 1, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Verset 3, regardez ce qu'il est dit. Ça, c'est le don de prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, amen, les édifie et les exhorte et les console. Voilà la base de la prophétie. La prophétie, elle n'est pas là pour faire peur. Quand j'étais à Pertuis, il y a un frère qui a dit, il savait que j'étais à Pertuis. Après, je n'osais plus partir. Alors, des fois, on reçoit une invitation. Je vous rends ce témoignage. Hein. Alors, on est invité, il y a un frère qui nous invite dans une église, on y va un dimanche. Et mes amis, à chaque fois que je partais, il y avait une personne, je ne vous dirai pas quel sexe, il y avait une personne. Mais elle... Sa prophétie, elle faisait peur à toute l'Église. Elle faisait peur à toute l'Église. Et alors, à chaque fois, je demandais, vous savez, quand on est invité, après, le midi, on appelle le frère qui a tenu l'Église, qui était responsable. Alors, ça s'est bien passé, oui. Ouais, mais pasteur, oh là là, la personne est là encore, oh là là. Mais la prophétie, elle n'est pas là pour faire peur, pour condamner, elle est là pour exhorter. Elle est là pour édifier. Et elle est là pour consoler. Elle n'est pas là pour taper, hein, pour faire du mal. C'est pas ça la prophétie. Et en tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Hein. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, il les édifie. On le verra la prochaine fois, c'est l'édification. Les exhorte et les console. Combien de fois on a été consolé? Ça vous est arrivé d'être consolé? Et ça va nous arriver encore. Et que ça nous arrive encore. Amen, et que ça nous arrive encore, hein, que Dieu soit béni. C'est tellement important, les dons spirituels. Rechercher, aspirer aux dons spirituels. Il faut, parce que l'apôtre le dit, hein, celui qui parle en langue, il parle à Dieu, etc., etc. On a besoin d'être renouvelé, que Dieu soit béni. Je vais écourter. Allez, Actes chapitre 14, j'avais pris d'autres exemples, je citerai juste l'exemple type de l'exhortation, mais je passerai sur sa biographie parce que ce serait trop long. Mais Actes chapitre 14, verset 22, l'apôtre Paul est laissé pour mort. Vous vous rappelez de ce passage? Il est laissé pour mort, ils sont en train de le lapider, les frères le prennent et le sortent de cette difficulté, et le texte nous dit que le lendemain, parce que quand quelqu'un était lapidé, tant qu'il bougeait, on lui jetait des pierres et il finissait englouti sous un tas de pierres. C'était ça la lapidation. Et moi, je pense qu'il y a eu un miracle là, parce que les historiens disent de Paul qu'il n'était pas beau à voir, il était tout défiguré tellement qu'il avait pris des coups dans son ministère. Et entre autres là, d'ailleurs il le dira dans les Corinthiens, j'ai été lapidé, j'ai fait naufrage, etc., j'ai jeûné, etc. Et il souligne. Et là il est laissé pour mort, les frères le sortent, et le lendemain, si ça nous était arrivé, on aurait pris 6 mois de maladie ou un an, hein. Mais lui, le lendemain, regardez, Actes chapitre 14, verset 22, je le lis pour vous, hein. Il est dit ceci, verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystra-Icône. Ça, c'est juste après avoir été lapidé, juste après, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Et bien sûr, il leur disait, et ils savaient de quoi ils parlaient, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et il sait de quoi il parle. Mais le lendemain, moi je me dis c'est un miracle. Hein, Dieu l'a relevé, il l'a fortifié, et il est reparti dans la ville. La ville où il a été lapidé, il est reparti, et il dit aux hommes et aux femmes, mais il les exhorte à persévérer dans la foi, hein, et en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je termine avec l'exemple type. Alors, est-ce que ça vous vient à l'esprit, l'exemple type de l'exhortation? Après, quand je vais vous dire, ah oui, c'est vrai. Alors, il y a un homme qui a été appelé, je vous aide là, hein, le fils, non, le fils d'exhortation. Hein? Comment il s'appelait? Barnabas. Eh oui, Actes 4, 36. Et il y a toute la biographie de Barnabas, le temps me manque, hein. Il y a le chapitre 9, d'abord le chapitre 4, verset 36, allez juste au 4, 36. Oui, 4, 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation lévite, originaire de Chypre, etc., etc. Et quand on lit la biographie de Barnabas, mais il y a toutes les qualités de celui qui exhorte. Et certainement, c'est sûr, il faisait partie de la troupe apostolique. Peut-être qu'on le verra en introduction la prochaine fois. Et après, on passera à l'autre effet de la prière. Mais Barnabas, c'est le fils d'exhortation. Je voudrais vous dire de la part de Dieu, ce soir, soyez des fils et des filles d'exhortation tout au long de cette année. Amen. Tout au long de cette année. Hein, qu'on puisse dire chaque jour, hein, chaque jour que je puisse exhorter, encourager. En tout cas, c'est ce qu'il a fait, Barnabas. C'est lui qui a pris l'apôtre Paul. Cette suite-là. Quand dans Actes chapitre 9, c'est la conversion de Paul, vous savez, de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et personne voulait s'approcher de Saul de Tarse. Ils avaient tous peur quand on lit le texte. Actes chapitre 9, verset 27. Actes 9, 27. Verset 26. Allez, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Il venait de se convertir. Et on savait qu'il pourchassait les chrétiens, qu'il avait des lettres pour arrêter les croyants. Et quand ils ont dit, mais Saul de Tarse s'est converti, les gars, ils ont dit, non, on va pas vers lui. C'est un terroriste. C'est un fou, hein. Ils le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Et regardez qui c'est qui a été. Et là, on voit les qualités de celui qui exhorte. Alors, Barnabas, le fils d'exhortation, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et là, on voit toutes les qualités. Il va le prendre avec lui. C'est un homme courageux, hein, parce que les autres, ils ne voulaient pas s'approcher. Mais lui, il a pris parti. Il a dit, mais non, il s'est converti, etc. Il va leur expliquer, il prend parti pour eux. Et je crois que le fils d'exhortation, l'effet de la prière va m'amener à encourager et va m'amener à conduire. Vous savez, on est comme des tuteurs. On conduit la personne, on la laisse grandir. Je ne sais pas si vous avez des plantes. Moi, j'aime les plantes à la maison, hein. Elles sont toujours bien exposées au soleil. Et certaines plantes, d'ailleurs, si vous voulez les redresser, il faut les tourner et les mettre vers la lumière et elles redressent. Parce que si vous la laissez, elle tend. Je ne sais pas si vous avez vu, elle cherche tout le temps la lumière. Et si on est des fils d'exhortation, eh bien, on va conduire les gens. Amen. Et ils ont besoin d'un tuteur. Ils ont besoin d'un tuteur. Et lui, Barnabas, il va aller vers les apôtres, il leur dit, mais non, ça y est, c'est fini, ça. C'est plus le terroriste, c'est plus Saul de Tarse, hein, c'est l'apôtre Paul. Il prend position. Et je crois que celui qui exhorte, il faut aussi qu'il prenne position pour les choses de Dieu et il conduit les autres, il les amène. Et c'est un courageux. Que Dieu soit béni. Soyez, mes frères et mes sœurs, des fils et des filles d'exhortation. Gloire à Dieu. Je voudrais terminer ce moment par la prière et je n'avais pas prévu, vraiment, je n'ai pas prévu, ce n'est pas du blabla, mais je voudrais quand même prier pour vous et peut-être faire un appel, peut-être que